soin des vôtres ensemble. Prenons soin des autres. Passez une belle soirée. On se reparle demain midi dans le Pit Stop. Demain, 14h.
Salut, là.
Dans le retour. Bye.
Ciao.
Boulevard. Pendant que vous êtes sur le terrain de camping, le terrain de baseball ou le terrain de frisbee, Boulevard est sur le terrain pour continuer de vous informer tout l'été de ce qui se passe dans notre ville. À Boulevard 102.1. Vous en profitez, on vous informe.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Quel plaisir de vous recevoir ce soir, monsieur.
Très bonsoir.
Comment ça se passe, l'état de nos finances au Québec ces temps-ci?
Bien, nous autres, notre business est très cyclique. Hein? C'est au mois de juillet, c'est bien tranquille parce que tout le monde est en vacances.
Ouais.
Au mois d'août, c'est traditionnellement un mois très occupé jusqu'en septembre. Puis, troisième semaine de septembre, là, quand les enfants sont rentrés à l'école, puis les couples réalisent leur vœu de se séparer, là, là, c'est bon jusqu'au 15 décembre. 15 décembre, ça tombe mort parce que les gens ont d'autres choses à faire.
Ils veulent passer le temps des fêtes.
C'est ça.
Ouais.
Puis, ça recommence la business la troisième semaine de janvier, là, où les comptes de cartes de crédit pour les achats des fêtes rentrent. Puis, ça reste bon jusqu'à la première semaine de mars. C'est 0-0. La semaine de relâche, là, c'est moins fort que les vacances. Puis après ça, ça recommence jusqu'au 15 juin. 15 juin, les vacances, la Saint-Jean-Baptiste, puis on reprend fin juin.
OK. Ben, c'est le fun, tu peux planifier tes vacances d'avance, Steph.
Mais il arrive toujours quelque chose. Tu sais, t'as quelque chose, t'as une période plus tranquille. Tu dis, je vais prendre des vacances, je vais m'allonger des fins de semaine, des choses comme ça. Mais il arrive toujours quelque chose. Tu sais, un contact qui dit, il faudrait absolument que tu rencontres un de mes clients, tu sais, telle date. Puis, tu sais, mais c'est pas grave, tu sais, ça fait 40 ans que je fais ça.
Oui, c'est ça. Avant, on vous appelait les syndics de faillite. Maintenant, on vous appelle les syndics autorisés en insolvabilité. Puis, il y a une pub qui roule, qui m'a fait penser à toi, parce que ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai la chance de te jaser. Puis, tu te dis, tu sais, Yann, maintenant, avec tout ce qu'on a mis en place, c'est très, très rare les gens qui rentrent chez nous et qui font des faillites.
Ouais.
Puis c'est une bonne nouvelle, ça, parce que maintenant, ils ont d'autres options que de faire faillite. Puis en plus, ben, vous regardez leur budget avec eux, puis vous les aidez. J'ai l'impression que maintenant, vous êtes perçu autrement que dans les années 80 ou 90, où c'était vraiment la pire des hontes de faire faillite. Maintenant, vous êtes capable de prendre les clients, puis de les accompagner de A jusqu'à Z. Puis bon, à la fin, si c'est une faillite, c'est une faillite, mais sinon, il y a une proposition consommateur qui est possible. Puis bon, c'est sûr que ça fait pas du bien au crédit pendant certaines années, mais il y a des gens qui maintenant sont plus susceptibles d'aller vous voir rapidement. C'est la meilleure des choses qu'ils peuvent faire. Parce qu'avant, c'était la grosse honte, puis ils voulaient vraiment pas se faire voir en rentrant chez vous.
Oui, mais il y a deux choses différentes qu'il faut mettre en contexte. Là. Dans les années 80, c'est là que j'ai commencé à travailler en insolvabilité, on avait vécu une grosse crise économique, les taux d'intérêt qui avaient monté jusqu'à 20%, il y avait des faillites all the way. Puis les instruments comme la proposition de consommateur, ça n'existait pas. Ça existait en 92. Un particulier qui voulait faire une proposition, c'était la proposition, la grosse proposition commerciale qui entraînait beaucoup de coûts, beaucoup de délais. C'était compliqué pour un particulier. Puis au niveau des entreprises, t'avais pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'avis d'intention de faire une proposition, qui est l'étape avant, qui permet de se réorganiser puis de travailler plus un plan là, pour sortir la compagnie de son marasme. Mais quand les méchants conservateurs, ils ont fait la refonte de la loi sur la faillite en 92, une refonte majeure, bien, ils ont adressé ces problèmes-là. Alors, tu as eu la proposition de consommateur qui était beaucoup plus simple, streamlinée. Puis tu as eu l'avis d'intention de faire une proposition qui venait à reprendre un petit peu des éléments du Chapter 11 aux États-Unis. Puis dans tout le monde occidental, les pays qui ont de l'allure, il y avait des législations dans ce sens-là. Fait que là, on arrive aujourd'hui, la proposition de consommateur, elle a été améliorée depuis ce temps-là. Puis une des améliorations, c'est le tarif qui est accordé au syndic pour avoir ce genre de dossier-là. C'est un incitatif aussi. Ce qui fait en sorte qu'au niveau des dossiers de particuliers, aller jusqu'à 2016, il y avait plus de faillites que de propositions de consommateurs. 2016, 50-50. Puis aujourd'hui, en 2025, c'est à peu près 80 % de propositions de consommateurs puis 20 % de faillites. Il y en a encore des faillites, puis il y en aura toujours. Puis dans certains cas, c'est impossible de faire une proposition, mais cet instrument-là est là. Dans la prochaine vague de changements législatifs, ce qu'on entend au travers les branches puis les rapports ou les mémoires qui sont soumis au gouvernement fédéral, on parle de simplifier le processus des propositions pour les micro, small and medium enterprises, les micro, petites et moyennes entreprises, pour pas qu'il y ait à subir tous les coûts, les délais et tout ce qui est associé à la grosse proposition commerciale. Fait que ça va être beaucoup plus facile. Une petite entreprise qui a 100 000 $ de chiffre d'affaires, qui a 200 000 $ de dette, mais ça va être plus facile et moins coûteux de faire une proposition. Ça, c'est un plus. Puis il y a certaines... T'sais, aux États-Unis, ils ont fait ça, dans plusieurs pays européens, en Australie, ils ont ce régime-là, puis ça fonctionne très bien. Il faut l'ajuster des fois, on le voit à l'usage, là. Mais c'est une bonne chose là, qui s'en vient à très court terme.
Puis c'est une question vraiment niaiseuse, mais toi, j'imagine que tu sais ça depuis le début que tu es en affaires. Chez vous, chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, ben, t'as ton père qui était là pour t'expliquer les choses, puis moi, ben, mon père est mort, fait que c'est toi qui vas m'expliquer comment ça fonctionne. Quand je me pointe chez vous, puis là, ben, je suis endetté à côté, je suis un particulier, tiens. Et je m'en vais chez toi, puis là, ben, je te fais part de toutes mes dettes. Puis là, tu dis, oh, tabarouette, c'est vrai que tu es endetté, on peut regarder pour la proposition, on peut regarder pour la faillite. Toi, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, tu reçois des gens qui ont plus une scène. Comment vous faites pour avoir votre argent de votre côté?
Bon, c'est une bonne question.
Ben, oui, mais on l'entend jamais, la réponse.
Ouais, si la personne, on expliquera comment on se rend à la solution qui est choisie. Là.
Ouais.
Mais si la personne a fait une proposition de consommateur,
oui.
qui se paye généralement sur qui se paye généralement sur 60 mois, alors la personne a payé, mettons, 200 $ par mois pendant 60 mois. Ça inclut les frais de la proposition.
OK, voilà.
Il y a un tarif qui est prévu dans la loi.
Je comprends.
Puis c'est roughement là, 1500 $ des premières recettes plus 20 % de ce qu'on distribue aux créanciers. Ça, c'est depuis des années. Puis le gouvernement fédéral, ce tarif-là existe depuis 1997.
C'est comme ça que vous vous payez.
Oui, puis il n'a pas changé depuis 1997. Fait que là, ils sont en train de le changer, mais tu sais, changer les frais pour ce qu'on paye au gouvernement fédéral, ça, c'est facile à changer, mais
ouais.
Nos honoraires, c'est beaucoup plus complexe, c'est une mécanique plus compliquée. Puis au niveau de la faillite, bien, la faillite, le syndic se paye à même la réalisation des biens. Okay, on vend le char, on récupère des bebelles,
ouais.
Des remboursements d'impôts, des paiements que le débiteur fait. Alors, dans une faillite sommaire, une faillite où il y a moins de 15 000 $ d'actifs libres, il y a un tarif aussi qui est prévu dans la loi. Fait que c'est, le tarif, en gros, là, c'est 100 % du premier 975 de recettes, 35 % de l'excédent jusqu'à 2 000 $ de recettes, puis 50 % de ce qui suit jusqu'à 15 000 $ de recettes. Fait que dans certains cas, ça peut être bien payant, un petit dossier de faillite sommaire.
Ouais.
Puis dans certains cas, tu peux faire de l'ouvrage comme c'est pas possible puis avoir des pinottes au bout du compte. Mais ça
se balance.
Il faut regarder à moyenne, effectivement. Faut regarder à moyenne. Dans les dossiers, que ce soit des dossiers de consommateurs, des dossiers ordinaires où ils ont plus de d'actifs, puis les dossiers de faillite d'entreprise, là, à ce moment-là, le syndic, quand vient le temps de fermer son dossier, il produit ce qu'on appelle le relevé définitif des recettes et des boursiers. Un État qui dit, regarde, là-dedans, on a ramassé, on a vendu une bâtisse, on a vendu des équipements, on a vendu des chars, on a récupéré des recevables, on a 100 000 $ de réalisation. Puis nous autres, on charge X $ plus nos déboursés. On soumet ça à la Cour. Puis la Cour, elle regarde si ça a de l'allure. Puis si ça a de l'allure, elle va taxer ça. On va envoyer ça aux créanciers, qui peuvent aussi venir en appel de cette taxation-là.
Mm-hmm.
Puis si tout est beau, ben on prélève nos honoraires, puis on distribue la différence aux créanciers, au prorata de leurs créances. Fait que c'est comme ça qu'on est payé. Dans certains cas, mettons, quelqu'un vient nous voir Il dit, Michel Leblanc, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Tes larmes me cachent la forêt. Là, ouais. Je ne dors plus la nuit.
Puis la première consultation, quand les clients sont dans la misère et ils veulent l'information, ça, c'est gratuit, ça.
Ah oui, c'est gratuit. Gratuit, okay. Sans obligation. On fait juste jaser du problème.
Voilà, OK.
On dit, dans le fond, là, la personne, je dis, apporte un talon de paye. Apporte les documents relatifs à tes dettes. Si tu as des actifs comme des placements, des affaires comme ça, apporte les relevés récents. Puis tout autre document que tu penses qui peut être d'un certain intérêt. On regarde ça ensemble, il me conte son histoire, j'y pose des questions, je prends des notes. Puis là, on dit, regarde, voici. Ton cas, c'est pas bien compliqué. Tu peux faire telle affaire, c'est pas compliqué. Puis tu n'auras pas besoin de faire une faillite ou une proposition, puis ça va régler ça. Alors ça, c'est à peu près, tu sais, 2 personnes sur 5 qui nous consultent, qui sortent du bureau avec la solution, ils sont pas obligés de faire faillite, pas de proposition. Puis on ne le charge rien. Ça, ça fait partie de notre modèle d'affaires. Tous les bureaux de syndic sont de même, ou à peu près. Par contre, quand son beau-frère va avoir un problème, il va dire, hey, j'en connais un syndic, là. Puis ça c'est en 40 ans de pratique, là, c'est arrivé souvent, là.
Ouais.
Parce que moi, je lui demande, c'est qui vous a référé ici? Ben, vous avez rencontré mon beau-frère qui avait un problème, puis vous avez réglé ça, puis il était bien content. Fait que ça, c'est tel que tel. Dans certains autres cas, on va les référer à d'autres types de professionnels. Okay? Quelqu'un qui a, mettons, une bonne équité sur sa maison, puis que tout ce qu'il a besoin de faire, là, c'est de refinancer ça, parce qu'il y a des bons revenus, la valeur de la maison est là, il y a de l'équité. Fait que on va le référer à un courtier hypothécaire ou quelque affaire de même. Okay. Puis il y a d'autres, on n'a pas de cote là-dessus. Tu sais, ça permet de régler un problème. Puis encore là, le gars qui est satisfait, il va référer. OK? Puis, ça, c'était un autre, une personne sur 5 à peu près. Puis après ça, tu as les 2 autres sur 5. Là, ça finit par une proposition ou une faillite. Mais tu sais, la faillite, là, c'est la dernière option parce que les gens, ça lui fait encore bien peur. T'sais, ils ont tout un oncle qui a fait faillite dans les années 60 puis qui s'est suicidé 2 fois par la suite. Là, tu sais, c'est... Il y a toutes sortes d'histoires, là, des gens urbaines là-dessus.
Mm-hmm.
Mais c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre le temps de leur expliquer.
Ouais.
Puis ce temps-là qu'on prend, bien, curieusement, plus la personne est âgée, plus il faut investir dans ce temps-là. Parce qu'à expliquer à une madame de 77 ans qu'il va falloir qu'elle fasse faillite parce qu'elle s'est faite frauder par sa belle-fille, qu'elle s'est faite frauder par son nouveau conjoint ou ses petits-enfants... T'sais, faire faillite pour cette personne-là, ça n'a pas la même connotation que pour quelqu'un qui a 25 ans, qui a loadé ses cartes de crédit et qui est allé sur le party pendant 6 mois. Alors, c'est une job de vente, si on peut appeler ça comme ça, là, plus délicate à faire, plus longue, il faut beaucoup de doigté. Mais t'sais, au bout du compte, là, t'sais, y a quelques larmes, ça, c'est tout à fait normal. Mais t'sais, des gens, on les revoit 2-3 mois après, puis ils disent, monsieur Leblanc, je dors maintenant.
Mais ben, c'est ça. Ben, moi, je te dirais que c'est très rapide parce que régulièrement, je te réfère à des auditeurs qui m'appellent pour me dire, Yann, tu as déjà reçu un gars sur tes ondes qui est syndic autorisant d'insolvabilité. Puis là, je te les envoie, puis j'aime ça quand les auditeurs font ça. Ils me réécrivent sur Messenger en disant, hey, c'est parce que là, j'ai été le voir, puis sérieux, il m'a vraiment aidé. Puis aujourd'hui, ça va mieux. Bien, ça, c'est le fun en maudit pour moi. Parce que je reçois un maudit bon gars qui est toi. Puis en plus, j'ai du feedback pour mes auditeurs. Puis c'est arrivé souvent. Ça. Yann, j'ai l'impression de m'être fait enlever 1000 livres sur les épaules.
Ah, ben c'est le but, ça.
J'étais tanné de me faire harceler à job. J'étais tanné de me faire harceler chez nous. J'étais tanné que mon cellulaire sonne tout le temps. On essayait tout le temps de me rejoindre parce que je devais de l'argent à tout le monde. Ah. Ben, à partir du moment où tu t'en vas rencontrer un syndic autorisé en insolvabilité, ben une fois que les démarches sont entreprises, ces gens-là n'ont plus le droit de t'achaler. Là.
C'est ça. Parce que, tu sais, vivre des problèmes de dettes non réglées, là, ça a un impact direct sur la qualité du travail que tu fais, sur tes relations de couple, tes relations avec les enfants, ouais. Tes relations avec tes proches. Fait que c'est important d'adresser ça. Puis il y en a qui vont dire, « Ouais, mais tu sais, c'est je vais faire une proposition de faillite, je vais être mal regardé partout. » Je regarde, tu n'as rien à perdre, tu n'as pas de bien. La plupart du temps, les gens n'ont pas de bien saisissable. Fait que c'est un passage obligé pour se relever. T'sais. De toute façon, tu vois la grandeur des gens, pas de la façon qu'ils tombent, mais de la façon qu'ils se relèvent. Fait que, t'sais, moi, j'ai vu nombre d'hommes d'affaires qui sont venus dans mon bureau. La business a planté. Eux autres, ils étaient endosseurs sur la marge de crédit. Ils ont été obligés de faire faillite aussi. qui me revoit 5-6 ans après, il me dit, sais-tu, là, c'était comme c'est, ils disent en anglais, a blessing in disguise, là. Mm. C'est, ça m'a permis de me recentrer sur les bonnes affaires, puis là, je me suis relancé dans une autre affaire qui est, tu sais, à 180 degrés de ce que je faisais, mais là, j'aime ça, puis je suis plus productif.
Oui, bien, t'es comme un phénix, tu renais de tes cendres, puis tu repars à zéro, puis tu peux être plus créatif, parce que là, t'as appris comme des erreurs du passé. Si le failli, là, si le failli sort de chez toi, puis là, ben tout est réglé, il se trouve un autre job, puis je sais pas moi, il y a une augmentation de salaire comparativement à sa dernière job de 50 000 $. Est-ce que les choses changent?
Bien, s'il est encore en faillite, parce que la façon que ça fonctionne, une faillite, de le jour 1,
ouais.
Mettons que c'est la solution, là. Le jour 1, a fait faillite, alors depuis 2009, ils ont établit un principe qui dit que quand une personne fait faillite, un particulier, plus il gagne d'argent pendant sa faillite, bien plus il doit payer pendant plus longtemps.
Oui.
Alors, ils ont établi des seuils. Une personne seule qui gagne moins de, je pense, 2 600 $ net par mois, bien, une première faillite, ça va durer 9 mois, puis ça va coûter 200 $ par mois pendant 9 mois. Si elle gagne au-delà du seuil, bien, la durée de la faillite va être prolongée d'un an. Fait que tu vas être à 21 mois. Puis là, tu vas devoir verser au syndic 50 % de l'excédent de 2 600 $. Fait que si tu gagnes 3 000, alors 3 000 moins 2 600, 400 $ divisé en deux, 200, pendant 21 mois.
Je comprends.
Mais pour revenir à ta question, si pendant ce 21 mois-là, il augmente de 50 000 $, bien évidemment, il va falloir qu'il paye plus. Puis s'il y a vraiment une augmentation, le gars, il part de 40 000 $ de revenus, puis là, il tombe à 140 000 $, bien là, on va regarder la possibilité de transformer la faillite en proposition. Ça, c'est possible, ça. On va regarder les avantages, les inconvénients, autant pour la personne qui est en faillite que pour ses créanciers aussi.
Puis là, je veux pas qu'il y ait de nom qui soit donné dans cette émission-là, mais si c'est un homme d'affaires, puis ça a été... Bon, il y a des hommes d'affaires qui sont passés chez toi ou ailleurs, ils ont fait faillite, puis très rapidement, ils se repartent. Puis ouais. on les réentend dans d'autres gros dossiers. Est-ce que les syndics sont très alertes là-dessus en disant, « T'as peu, là, lui, ça allait pas si bien que ça, puis il y avait plus rien, puis là, tout d'un coup, pouf, il va acheter des terrains, il va acheter des maisons, il va en acheter pour ses enfants, puis là, on parle de plusieurs millions de dollars. Est-ce que vous êtes apte à faire des recherches, justement, ouais. de la provenance des fonds de l'individu?
Bien, ça fait partie de la job du syndic, là. Mais tu sais, il reste que le principe de base, au Canada, les législations d'insolvabilité sont basées sur le principe du « fresh start ». On tire une ligne, puis on repart à neuf. Pendant que la personne est en faillite, si elle investit des sommes colossales, elle achète des affaires, bien, tu sais, c'est un red flag, là, le syndic, il va enquêter.
Ouais.
Puis le syndic, il va enquêter, puis tu sais, même s'il va... Il peut
c'est
faire ça,
qui je parle, nous.
Ouais, il peut faire ça de son initiative personnelle, mais bien souvent, c'est les créanciers majeurs qui vont dire, regarde, on s'interroge sur telle affaire, peux-tu vérifier telle affaire? Alors, on vérifie, tu sais, puis si... les réponses ne sont pas satisfaisantes, le syndic peut procéder à un interrogatoire de cette personne-là dans la cour qui dévoile ses sources de revenus, les circonstances de ce qu'on entend. Parce que les journalistes, eux autres, ils rapportent ce qu'ils comprennent.
Factuel.
On les aime bien, les journalistes. Là, mais
qui, ben, quoi, où, quand, comment, pourquoi?
Mais il y en a qui vont orienter ça pour aller chercher des clics. Là, fait que il faut aller au fond des choses. Là.
OK.
Mais le syndic a des pouvoirs d'enquête, là, en vertu de la loi sur la faillite.
Mais vous êtes très alerte là-dessus, si vous vous entendez qu'il se passe de quoi. Puis même, j'imagine qu'il y a des gens qui vous appellent là, pour dire, hey, t'as peur, by the way, j'ai su que c'était toi qui étais derrière ce dossier-là, tu peux-tu t'informer?
Ah oui, puis tu sais, là, mais il y a beaucoup de... Tu sais, dans certains... Un dossier, entre autres, les gens me disent, hey, tu sais, il y a telle affaire qui est là, parquée dans un entreprise. Oui, je sais, c'est moi qui l'a vendu à telle entreprise, puis je sais qu'il est là, parce que c'est là qu'il l'a fait remorquer, là, tu sais. Mais ça te permet de vérifier là, puis de valider les informations qu'on a.
Y a-t-il beaucoup d'options pour les personnes endettées au Québec, Steph?
Bien, oui, le nombre des options, il y a un bon nombre d'options, en autant qu'on adresse le problème tôt. Les gens qui viennent nous voir, puis nous autres, Leblond et Associés, là, depuis une quinzaine d'années, on a mis beaucoup l'emphase sur l'éducation en amont.
Ouais.
Tu sais? Les chroniques qu'on fait dans les médias, on donne souvent des entrevues dans les médias. Je donne des cours, des cours-conférences là, un peu partout. Je fais la formation de, des gens. J'ai donné conférence à Revenu Québec, à CNESST, la Gendarmerie royale du Canada pour les enquêteurs.
Ah, oui.
On donne l'éducation, puis on, au niveau des consommateurs, on essaie d'aller en amont. Fait que plus les gens sont au courant, puis ils savent que, bon, c'est pas normal telle affaire, on va consulter le syndic, on appelle, on dit qu'on appelle pour le beau-frère, puis pose des questions, puis on les explique ça. Alors, plus la personne nous consulte tôt, plus le nombre des options est intéressant. Fait que, tu sais, ce qu'on voit la plupart du temps, les gens sont énervés, puis ils disent, ben, regarde, là, on n'est pas trop sûr de telle affaire. Alors, on commence par faire le budget. Parce que 104% des gens n'ont jamais fait de budget. Puis les quelques-uns qui ont fait un budget, ben, 104% de ceux-là sont pas capables de le suivre.
Mm-hmm. J'ai longtemps été dans cette gang-là de personnes qui ne faisaient pas de budget. Tu faisais régulièrement des chroniques avec moi à l'époque où tu disais, Yann, ça te prend un coussin. Et j'ai longtemps fait partie des gens qui se disaient, j'en ai pas besoin de coussin. Tu m'avais donné un genre de 3 mois, si je ne me trompe pas, coussin financier. Là, si jamais il se passe de quoi dans ta vie, au moins 3 mois, ça a du bon sens. Il y a des auditeurs qui nous disaient, ben moi, Yann, depuis que j'ai entendu Stéphane Leblond sur vos ondes, j'ai un 6 mois de coussin. Je salue cette initiative-là. Mais je pense que les gens ont besoin de ce genre d'informations-là. Parce qu'à l'école, au secondaire, ils ne nous apprennent pas ça.
Non, ça c'est
par contre, je sais tricoter des. Pas tricoter, mais je sais coudre des boxeurs, Steph.
Ah ben pas moi. Mais tu sais, faire le budget, il y a beaucoup d'applications. Les jeunes aiment ça, des applications, avoir des affaires sur le téléphone.
Ouais.
Il y en a beaucoup des applications pour faire les budgets. Suivre les dépenses, parce que, tu sais, les petites dépenses, ça s'additionne. Tu sais, le Starbucks à 3-4 piastres.
Oui.
Alors, tu sais, les Américains disent les fortunes, les grandes fortunes se perdent $1 à la fois. Là, tu peux pas avoir plus vrai que ça. Alors, faire le budget, il y a le gouvernement fédéral sur un petit site Internet, vous googlerez gouvernement fédéral gestion financière, là, puis vous allez avoir une tonne d'informations sur la façon de faire un budget. Il y a des modèles de budget. Il y a un paquet d'institutions financières qui ont des budgets. C'est pas compliqué de faire un budget. En gros, là, sortez vos relevés bancaires puis vos relevés de carte de crédit des 3 derniers mois puis passez chaque poste financier du budget. Mais dites pas, là, ouais, ça me coûte à peu près tant de piastres de restaurant par mois. Non, non. Allez vérifier sur vos relevés bancaires ou vos relevés de carte de crédit, puis ça va vous ouvrir les yeux. Vous allez dire que, ben, tu sais, 500 piastres par mois de restaurant, ça n'a pas beaucoup de bon sens.
Non.
Ça ne veut pas dire de le ramener à zéro, mais tu sais, 200, là, tu diminues ça de 60 %.
Ça peut être ça. Puis ça dépend aussi comment tu le calcules. Moi, depuis que je t'ai côtoyé, depuis il y a de ça quelques années, je le calcule toujours en double. Fait que pour mon 500 de restaurant, honnêtement, je ne dépense pas ça, 500 de restaurant. Là. Mais j'ai travaillé pour combien à job pour réussir à avoir 500 cash? Ça veut dire que là, il a fallu que je gagne 1 000, que je retire tout ce que je dois envoyer au gouvernement, puis pour moi plus tard. Puis là, il me reste 500.
C'est ça. Faut le calculer en
net. En double tout le temps.
C'est ça, effectivement.
Les filles me trouvent cheap.
Ben, c'est correct, ça.
C'est jamais vendeur, célibataire. Je peux te le confirmer.
Mais tu sais, les femmes, les strong, independent women, là, oui! sont pas supposées partager la moitié du bill.
Oui, oui.
OK. Alors, le fait de faire un budget, ça permet de mettre d'ouvrir les yeux sur certains problèmes, puis ça permet de dégager des sommes qui vont permettre de ramener un budget positif. Puis, après ça, une fois que tu as un surplus budgétaire, puis tu dis, ben, regarde, voici le plan pour payer tes dettes. Tu n'as pas besoin du syndic pour ça. Un petit peu de discipline, puis un petit peu de suivi, puis tu vas être capable de faire ça. Ça, là, on a des budgets, on en fait 1 000 par année, puis souvent, ça fait un job. Après ça, dans certaines provinces, c'est moins populaire au Québec, mais tu vois ça en Ontario, puis dans l'Ouest canadien, des conseillers en crédit qui sont généralement gérés par des organismes sans but lucratif, qui vont aider les gens à faire, tu sais, comme une proposition de consommateur informel, là. Mais, tu sais, ça couvre pas toutes les dettes, là. Ça a l'avantage de faire un seul paiement. Ça va réduire ou éliminer les intérêts, dépendamment des créanciers qui font partie du programme. Parce que c'est fait bien souvent avec la collaboration de l'Association des banquiers canadiens, fait que les prêts personnels, les cartes de crédit, ces choses-là. Sauf que, ben, ça couvre pas les dettes comme les impôts, les prêts étudiants. Il n'y a pas de protection légale contre les poursuites. Fait que, tu sais, ça peut être bon dans certains cas, mais c'est l'analyse initiale du dossier qui va déterminer si c'est vraiment une bonne solution.
Ouais. Ça, tu me dis qu'il y a des conseillers au Canada, des conseillers en crédit. Ouais. Au Québec, j'ai l'impression qu'on se dit, je vais aller voir un courtier hypothécaire, je vais réhypothéquer ma maison, je vais rembourser mes dettes. C'est-tu eux autres un peu qui remplacent ceux qui sont au Canada?
Bien, ça, le courtier hypothécaire, là, c'était one-shot deal. Tu sais, si tu as besoin de 35 000 pour payer tes dettes, puis tu as suffisamment d'équité sur sa maison, puis tu qualifies pour avoir le prêt hypothécaire, là, ben tu n'as pas besoin d'un conseiller de crédit. Là. Le courtier hypothécaire, il va avoir ton prêt hypothécaire, le notaire va faire le déboursé, tu vas payer tes dettes, puis that's it.
Voilà.
De ce qu'on regarde, si c'est un suivi, là, les conseillers en crédit, ils vont te montrer comment faire un budget, comment suivre le budget. Puis c'est eux autres qui vont s'occuper de payer tes dettes aussi. Tu vas leur faire le paiement eux autres. C'est un peu comme la proposition de consommateur, mais en moins de pouvoir, si tu veux.
Parce que j'ai déjà, écoute, j'étais jeune, je devais avoir 18-19 ans, j'avais été à la caisse Desjardins à l'époque, puis j'avais dit, moi j'ai une carte de crédit, puis j'ai un compte à rembourser, puis je veux avoir un montant supplémentaire. Fait que c'était en 2006. Fait que j'étais plus vieux que ça. Puis je vais avoir un montant supplémentaire pour payer mon cours de pilote privé chez Aéropro à Québec. Okay. Fait que j'ai besoin de, je pense que c'était 12 000 puis je vais avoir la paix avec ça. Fait que j'avais consolidé toutes mes dettes. Ils m'avaient fait un prêt de 12 000 J'avais remboursé 2 000 puis j'avais donné 10 000 pour mon cours de pilotage. Une consolidation de dettes, c'est ça.
C'est ça. Une consolidation de dettes, c'est...
C'est un prêt de consolidation.
Ouais. La consolidation de dette, c'était exactement ça. Ça consolide les dettes. Tu as 2-3 cartes de crédit, des prêts personnels, des affaires comme ça, un petit peu de dette à l'impôt. Puis tu te dis, ben, regarde, je suis un petit peu éparpillé. Tu vas voir ton banquier. Puis tu dis, moi, j'aimerais avoir un prêt qui va payer tout ça. Puis je vais payer à une place, le banquier, à un taux d'intérêt qui, généralement, va être moins élevé que ce que tu payais individuellement sur ces dettes-là. Ça peut être bon. Ça peut être bon si tu es discipliné puis si tu ne reloades pas tes cartes de crédit après. Là. Parce que, tu sais, si tu prends un paquet de petits tas de marde puis tu fais un gros tas de marde après, ça reste de la marde.
Oui.
Alors, tu sais, il faut être prudent avec ça parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, ils sont rendus à la troisième consolidation de dette.
Ah.
Ils n'ont pas appris de la première. Mais, tu sais, alors à ce moment-là, il faut quelque chose de plus drastique comme une proposition de consommateur ou une faillite. Mais dans certains cas, je l'ai vu, puis j'en réfère des gens pour une consolidation de dette. Je dis, regarde, va voir ton banquier. Toi, tu as une job au gouvernement fédéral, mettons, au gouvernement provincial, tu as des revenus qui rentrent souvent, tu as sécurité d'emploi, tu es le candidat idéal pour qualifier pour un prêt de consolidation, puis plus souvent qu'autrement, ça fonctionne. Puis je lui dis, si ça ne fonctionne pas, alors reviens me voir, on fera une proposition de consommateur.
Ce qui est incroyable, puis je sais que toi, tu vas trouver ça tout à fait normal, mais c'est que quand tu fais une consolidation de dette, tu fais un prêt pour faire des consolidations de dette, le pourcentage d'intérêt est plus élevé. C'est comme si tu représentes... Alors que... Tu n'avais pas besoin d'eux, mais tu te dis, regarde, je vais consolider mes dettes, tu t'en vas emprunter, mais là, tu n'empruntes plus au même taux d'intérêt parce que ça représente un danger pour eux autres.
Bien, ça dépend, ça. Tu sais, quelqu'un qui a des dettes de carte de crédit à 17, 18, 19 % qui va avoir un prêt personnel, un prêt pour la consolidation à 11, 12, 13 %.
Parce qu'il m'avait donné 11.
Bien, tu as gagné, mais tu sais, si tu consolides tes dettes à un taux d'intérêt supérieur à ce que tu payes ces autres dettes, là, tu n'as rien gagné.
Exact. Hein? Puis il y a plein de prêteurs sur Internet. Là. Je ne sais pas si tu les vois passer une fois de temps en temps. Là. Ça dépend de ton algorithme. Là. Mais il y a plein de prêteurs prêts rapides, 500 $ ou 1000 $ rapidos. Eux autres, ils doivent charger le pourcentage d'intérêt du siècle.
Bien, c'est parce que, tu sais, initialement, quand ça a sorti, ça, c'était une mode aux États-Unis là, où les taux d'intérêt ne sont pas capés à des chiffres raisonnables. Tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est tu vas emprunter 700 $. Par contre, il faut que tu payes une commission à un courtier de 300 $. Fait que finalement, ton 700 $ que tu as, il faut que tu rembourses 1000 $ à des taux d'intérêt de 35, 40, 45 % d'intérêt annuel. Fait que si tu manques un paiement, il y a des frais de ci, des frais de ça.
Puis ils font comment? Tu sais, c'est des Shylock, là. Je veux dire, j'imagine que les autres, ils ne se perçoivent pas comme ça, mais c'est des Shylock.
Des prêteurs particuliers.
Oui. Puis s'ils ne se font pas payer, ils font comment pour se faire payer?
Bien, moi, j'imagine que dans le... Je connais pas ce milieu-là, là, de ce bout-là. Là.
C'est souvent des gens avec des chaînes en or, des bagues.
Je sais pas. Mais, tu sais, dans leur modèle d'affaires, ça doit être prévu que, tu sais, ils font tellement d'argent avec ceux qui payent que il faut. Ça signifie qu'il faut que tu tolères un paquet de mauvaises créances aussi. Là.
OK.
Mais, tu sais, c'est. T'sais, je ne recommanderais pas aux gens ce genre de prêt-là, à moins de cas très, très, très particuliers là, que je n'ai pas vu encore.
Ben, j'ai l'impression que c'est des gens qui exploitent la misère.
Ben, ça répond à un certain besoin, mais c'est parce que les gens qui vont requérir à ce genre de prêt-là, ils n'ont peut-être pas toute la discipline qu'il faut pour gérer ce genre de dette-là.
Puis ils n'ont peut-être plus d'autres solutions aussi à leurs yeux, mais en allant voir un syndic autorisé en insolvabilité, ben là, vous allez en avoir peut-être d'autres solutions.
Mais encore là, dans certains cas, ça peut être bon. Quelqu'un qui a besoin de 500$ pour une semaine, là, parce qu'après ça, ça va régler tous ses problèmes.
Ouais.
Ben là, vas-y, mon homme. Là. Sauf qu'il y a des alternatives. Tu as des institutions financières, pas les banques, là, mais tu sais, les styles Easy Financial, puis des affaires comme ça. Ils prêtent à des hauts taux d'intérêt, mais tu sais, ils ont pignon sur rue, tu sais, puis ils ont les services à la clientèle, puis tout. Là. Après ça, tu as des autres options que tu peux avoir, c'est une négociation informelle avec tes créanciers. Tu as un nombre restreint de créanciers, tu as 3-4 créanciers, tu as eu une bad luck, tu as perdu ta job, ta femme est tombée malade, ton petit est à l'hôpital. Tu peux rencontrer tes créanciers, communiquer avec eux autres, dire, regarde, voici, je suis plus capable de faire tel paiement. Peux-tu me donner un congé de capital? Je vais te payer les intérêts pendant tant de temps, puis on s'organise, puis on reficellera tout ça ensemble dans un mois ou deux mois quand toute la bad luck va être passée. Ça, c'est des négociations informelles. Ça fonctionne aussi, on le voit souvent. Mais quand vous faites ce genre d'entente-là, tu sais, demander un écrit. C'est parfait, on s'entend sur telle affaire. Peux-tu me confirmer ça par courriel? Là? Parce que, tu sais, une entente, ça gueule, c'est toujours bien bon, sauf quand vient le temps d'en faire la preuve. Là. Alors que si tu as un courriel, un fax, quelque chose, là, c'est préférable. Tu sais, ça implique que tu n'es pas obligé de passer par un syndic. Ça peut avoir, par contre, un impact négatif sur ton dossier de crédit. Parce que c'est
avec... Même si tu t'entends avec eux, eux peuvent le souligner au dossier de crédit.
Oui, parce que tu es en retard sur la convention initiale.
Mais ben, ça sert à quoi de s'entendre?
Ben, ça dépend. T'sais, si le fait de préserver, de ne pas être obligé de faire une faillite ou une proposition, ça implique de maganer ta cote de crédit pendant un certain temps, c'est à toi de balancer les avantages et les inconvénients de ça.
OK. Mais la plupart des entreprises, est-ce qu'ils sont ouverts justement à laisser un break aux clients?
Ça, c'est une bonne question. T'sais, si tu as, en affaires, mettons, si tu as un de tes clients ou tes fournisseurs à qui tu as toujours, avec un fournisseur, tu as toujours donné l'heure juste. T'sais, quand ça allait bien, tu disais. Quand ça allait mal, tu disais. Puis à un moment donné, que ça allait bien mal, tu disais. Si tu as toujours eu une bonne relation avec ce fournisseur-là, il va te donner un break. Okay? Il va te donner un break, il va comprendre ta situation parce que d'un autre côté, si il te donne pas de break, tu es obligé de faire une faillite, une proposition, il va perdre beaucoup. Tandis que s'il te donne un break, tu vas continuer de faire de la business avec lui. Il peut resserrer les conditions de crédit, mais ultimement, tu vas continuer de faire de la business avec lui, puis lui, il va faire des profits avec la business que tu fais avec lui. Fait que ça, c'est ce genre d'entente-là, ça se fait régulièrement dans le monde des affaires. Ça implique, par contre, un suivi plus serré, parce que il faut que tu les suives, ces comptes-là. Mais, tu sais, ultimement, là, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais dans certains cas, ça va être impossible. Mais, tu sais, le fournisseur qui va te donner un break, là, il n'est pas fou, il est en affaires, lui aussi. Si ce que tu y promets, ça n'a pas de bon sens, il va te le dire, regarde, Dieu, là, ça n'a pas de bon sens. Je vais te rendre service en refusant ça.
Ouais, mais des fois, quand tu es un bon payeur, il va te donner un 60 jours ou un 90 jours. Si, il n'est pas certain, il va te donner toujours un 30 jours. Mais le break, c'est ça peut être un bon 90 jours. C'est une belle relation avec lui parce qu'il veut te garder comme client. Là. C'est à son avantage. Ouais. OK. Ensuite?
Bon, ensuite, tu as le dépôt volontaire. Le dépôt volontaire, ça, c'est un programme qui est géré par le gouvernement provincial, la Justice Québec. En gros, le dépôt volontaire, c'est comme une saisie de salaire volontaire. Okay? Tu vas au palais de justice, tu vas rencontrer les gens au dépôt volontaire, tu te gardes, moi j'ai 5-6 cartes de crédit, je paye un taux d'intérêt de fou là-dessus. Mais tu sais, c'est pas un montant suffisamment élevé pour que ça vaille la peine de faire une proposition de consommateur ou une faillite. Fait qu'ils vont lister ça avec toi. puis tu vas leur apporter un talon de paye. Tu vas dire, regarde, moi, je gagne tant de piastres brutes par semaine ou par quinzaine ou peu importe. Puis là, ils vont calculer selon une grille qui est établie là, par eux autres, c'est quoi le montant que tu dois payer à chaque période de paye pour qualifier au programme. Alors, ils vont calculer, mettons, que c'est 300 piastres par mois. Alors, tu vas payer pendant X mois jusqu'à ce que la dette ait été entièrement payée. Un des avantages, c'est que le taux d'intérêt qui court sur ces dettes-là est ramené à 5 % qui est le taux d'intérêt qui court ces jugements. Alors, tu as une carte de crédit à 19 %. Alors, ça va être ramené à 5 % fait que ça rend plus, plus crédible là, l'histoire de les payer au complet sur un an ou deux ans,
ben
ou
ouais. trois ans. Effectivement. Puis, parce que quand tu disais dépôt volontaire, moi, ça me rappelle le moment où j'avais plusieurs employeurs. Tu sais, des fois, quand tu es employé à plusieurs places, tu peux changer de braquette d'impôt et tout ça. Ouais, mais lui, ton employeur calcule les affaires selon le salaire que tu gagnes là. Puis ce que j'avais fait des deux côtés, je demandais à mes deux employeurs de m'en prendre plus.
Oui, tu signes le formulaire.
Pour les impôts, on signe le formulaire. Puis en bout de ligne, une fois que tu fais tes impôts, il y a un chèque qui revient si tu as payé en trop. Mais j'avais beaucoup moins de surprises que le fameux gouvernement du Québec et du Canada qui te réclame quoi 3 500 $ parce que tu n'as pas payé assez d'impôts. Ça, c'était une mauvaise nouvelle.
Oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais il y a des gens qui vont prioriser le fait d'avoir un revenu plus important là, à chaque quinzaine ou à chaque semaine.
Ouais.
Mais tu sais, ils déchantent là, au printemps suivant.
Ouais. C'est quoi le pourcentage de gens qui vivent à la petite semaine? C'est-tu 8 personnes sur 10? Es-tu 5 personnes sur 10?
J'ai vu une statistique, là, c'est 42 % je pense, des Canadiens qui vivent d'un chèque de paye à l'autre.
Fait 4 personnes sur 10 au Canada, faut que la paye rentre le jeudi, sinon ils sont dans le trouble.
C'est ça, ils sont dans le trouble. T'sais, ils ne peuvent pas faire l'épicerie parce que la carte de crédit est pleine,
ouais.
le compte de banque est vide. Alors, s'il arrive un problème majeur sur le service de paye Desjardins, mettons,
ouais.
Tu es dans la marbre.
Ça doit être une source de stress
populaire. Tu appelles le beau-frère, la belle-sœur ouais. pour pouvoir faire l'épicerie cette semaine-là.
On a le plaisir de passer la soirée avec Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Go Syndic Leblon, ça fonctionne toujours?
Oui, gosyndicleblon.com.
Pour les gens qui veulent de l'information et qui veulent surtout recommencer à bien dormir si jamais vous avez des problèmes financiers. On va faire une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. T'as ça, un ordinateur? Savais-tu que Boulevard 102.1 a une web radio?
Boulevard 102.1.
Écoute-nous en ligne. C'est simple et gratuit. PLVD.FM. Le 28 août. 16h.
102.1.
Soyez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour tout savoir de notre nouvelle programmation.
Oh my God, I can't believe it.
L'automne ne sera pas de tourpeau. Le 28 août.
A 1, a 2, a 3.
16h.
All right, ready?
Boulevard 102.1.
Go!
C'est le grand jour. Ce samedi de midi, vivez la magie des grands feux Loto-Québec à la Place des Canotiers et au Quai Paquette pour la grande finale. Sortez vos bottes, votre chapeau de cow-boy et préparez-vous à vivre une journée complètement country avec le plus gros plancher de danse en ligne et notre taureau mécanique. Dizaines d'artistes, DJ live et bandes vous attendent. Un événement gratuit pour tous en partenariat avec Boulevard 102.1.
Programmation complète sur lesgrandsfeux.com.
Il fait tellement chaud que tu as décidé d'amener les enfants à piscine municipale. Ouh, ça va te prendre une bonne bière de Chaloux en revenant. Plus de 1000 sortes en inventaire. Chaloux, Beauport et Saint-Émile.
Mission recrutement assuré. Tu connais quelqu'un qui cherche une job en assurance où il va triper? Réfère-le chez nous et ramasse jusqu'à 2 500 $ en récompense. Accepte la mission, deviens un recruteur d'élite et gagne gros. Rendez-vous sur telioassure.com/carrière.
C'est le moment de foncer chez Volkswagen Saint-Nicolas pour vous procurer un ID4 2024. Écoutez bien ça. On vous offre jusqu'à 17 500 $ de rabais, les taxes incluses, 5 ans d'entretien gratuit sur les éditions Pro et du financement très avantageux à 0 % pendant 72 mois. C'est du jamais vu. Ces offres sont valides jusqu'au 2 septembre ou jusqu'à l'écoulement de nos stocks. Ne manquez pas votre chance. Volkswagen Saint-Nic, quand on dit offre exceptionnelle, on le pense pour vrai.
Matelas Dauphin. Nous sommes l'un des plus grands fabricants de matelas au Québec. Notre force, fabriquer des matelas de qualité exceptionnelle à des prix imbattables. Nous les fabriquons, vendons et garantissons sans intermédiaire depuis 55 ans. Pendant le Blitz du fabricant, obtenez 50% de rabais sur tous les formats de matelas silhouette ultra confortables, dont le double en spécial à 589$. Livraison rapide et gratuite. Cette offre est beaucoup plus pendant le Blitz du fabricant. Matelas Dauphin, une entreprise 100% québécoise.
Il annonce chaud, fait froid. Il annonce froid, on crève. Pas simple, la météo?
Heureusement, avec SGL Climatisation Chauffage et ses appareils Daikin, l'installation rapide, les subventions et le financement disponibles, le confort est simple.
La ville de Québec est plus animée que jamais. Il y a des centaines d'activités gratuites partout. Concerts dans les parcs, fêtes de quartier, événements, animations. Il y en a tellement, c'est pas gênant. Pour les voir, consultez Québec Animé. animé.ville.québec.qc.ca. Un message de la Ville de Québec.
Du 21 au 24 août, venez célébrer le terroir québécois aux Fêtes gourmandes de Neuville. Découvrez plus de 60 exposants passionnés, le légendaire maïs sucré de Neuville, des dégustations, des ateliers gourmands, des démonstrations barbecue, sans oublier le combat des chefs. Programmation musicale avec le LBA Band, Phil Lauzon et le fameux Dueling Piano de la Broche à foin. Une 13e édition savoureuse avec Alison Van Rassel comme porte-parole. Info et billets au fgdn.ca.
Et si votre carrière progressait grâce à la formation continue du Cégep Garneau? Au Cégep Garneau, nous offrons des programmes flexibles et adaptés à votre réalité. Que vous souhaitiez obtenir une attestation d'études collégiales, perfectionner vos compétences, former votre personnel ou faire reconnaître vos acquis et vos compétences, notre équipe vous accompagne à chaque étape. Spécialisée en transport et logistique, en approvisionnement, en administration et bien plus encore, nous vous aidons à concrétiser vos ambitions. Donnez un nouvel élan à votre parcours professionnel. Visitez Progressive avec un Z.ca dès maintenant.
Chez Lévis Mazda, on a ce qu'il vous faut pour vous rendre heureux sur la route. Le Mazda CX-30 2025, à partir de seulement 93$ par semaine, sur 48 mois, avec un léger comptant de 1685$. Un design qui fait tourner les têtes, un équipement qui impressionne et une conduite qui donne envie de prendre le long chemin du retour. Le tout avec la fiabilité Mazda. Plusieurs unités sont prêtes à partir. Lévis Mazda, là où le style et le plaisir de conduire se rencontrent.
C'est le retour de la semaine. Puis comme dirait
Mike Chirona,
c'est le temps de faire un petit peu de travaux d'été pour étirer un petit peu l'été. Jusqu'à mercredi, les laveuses à pression Rona sont à seulement 99,99 $ et profitez de 30% de rabais sur tous les formats de peinture intérieure Sico Endurance. Fait que ce soit pour remettre blanc vos vieux meubles de patio ou pour rafraîchir la couleur de vos murs, chez Rona, on a tout ce qu'il faut pour vos rénos, beau temps, mauvais temps.
Mike Chirona.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
Boulevard.
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Avec Stéphane Leblond de chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, on parle des options pour les personnes endettées au Québec. On a fait quelques points juste avant la pause. Et by the way, demain, le podcast sera disponible sur nos différents sites web. Steph, on était rendu aux propositions de consommateurs. Puis par la suite, on va parler des faillites personnelles. Mais je te pose la question comme ça. C'est quoi le profil type des clients qui se présentent chez toi? Tantôt, tu nous as parlé de personnes âgées, tu nous as parlé de gens qui, avaient bien entamé leur vie autour de 40, 45 ans. Mais est-ce que le profil change après année, tu as des gens qui sont peut-être un peu plus jeunes?
Ça, c'est une question qu'on se fait demander souvent. Le portrait type de quelqu'un qui a des difficultés financières, là,
ouais,
ça n'existe pas. Tu sais, c'est... Parce que ça évolue, puis c'est assez démocratique, là, l'insolvabilité. Tu peux avoir quelqu'un de 20 ans qui avait une bonne job, qui avait du bon crédit, qui est tombé malade ou qui a perdu sa job, puis qui avait payé ses dettes, il devient insolvable. Tu peux avoir l'homme d'affaires de 50 ans qui a une business qui a bien roulé pendant 30 ans, il s'est fait frauder par son comptable ou il y a eu une catastrophe dans son entreprise. L'entreprise est obligée de faire faillite. Lui, il avait endossé tout ça. Il est obligé de faire faillite. Tu peux avoir, après ça, puisqu'on voit là, le segment de la population au Canada, où le taux d'insolvabilité est en plus forte croissance et les gens de 65 ans et plus. Puis il y a différentes raisons pour ça. C'est que généralement, à 65 ans, tu prends ta retraite, sauf moi. puis il faut que tu apprennes à vivre avec un revenu moindre.
Ouais.
Sauf que les gens, c'est confortable à avoir à vivre avec un revenu X. Fait que quand ils prennent leur retraite, ils n'adaptent pas leur train de vie à leur nouveau revenu. Fait que la différence est comblée par le crédit. Puis après 2-3 ans de combler cette différence-là, bien, la marge de crédit est pleine, les cartes de crédit sont pleines. Fait que tu n'as pas le choix de faire une faillite ou une proposition. Puis tu peux avoir ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est les personnes âgées. Tu sais, la madame de 68 ans, 74 ans, qui a un nouveau conjoint, qui se fait frauder par le nouveau conjoint ou qui se fait frauder par ses enfants ou ses petits-enfants. Puis là, tu sais, elle a fait face à deux réalités. Elle s'est faite frauder par un proche. Fait que là, tu sais, l'amour propre en mange une claque.
Ouais.
Puis en plus, tu n'es plus capable de faire face à ces dettes-là dont tu n'as jamais profité. Tu sais, quand tu mets 1 000$ sur ta carte de crédit et tu vas faire un voyage, là, au moins, tu l'as vécu, le voyage.
Ben oui.
Tu restes des souvenirs. Puis, ouais. Mais la personne qui s'est faite frauder, elle ne l'a même pas. Puis des cas, puis là, moi, là, je suis bien critique là, du gouvernement provincial, puis j'ai raison souvent. Là. Quand je vois des campagnes de pub où on dit « Ah, quand il y a de l'abus financier des aînés, dénoncez. » Moi, j'ai dénoncé 2 fois. Okay, j'avais, tu sais, tout le paper trail, les relevés bancaires, puis ouais. Ça. Je me suis déplacé au service de police de la ville une telle. Puis j'ai dit, voici, je vais faire une déposition. J'ai été témoin d'abus financiers d'une personne. La madame, c'est une telle, tel numéro d'assurance sociale, telle date de naissance, a été fraudée par un tel. Voici le paper trail. Puis là, il te rappelle 4 mois après. L'abus continue pendant ce temps-là. Puis là, ils te disent, ouais, ben là, la madame, elle ne veut pas porter plainte. Ben, je comprends. Mais tu sais, elle se fait frauder. Là. Vous avez le papier. On ne peut rien faire. Fait que là, quand je vois que le gouvernement provincial, il paye en plus de la pub à la TV et à la radio, je dis, c'est de l'argent gaspillé, ça.
Mais de l'autre côté, le reste de la machine ne suit pas du tout.
Mais non. Tu sais, puis la minute qui. S'ils voulaient faire une enquête, s'ils en faisaient une, ben là, tu sais, c'est compliqué. Hein? À moins que le gars avoue, là, je suis pas sûr que... Mais en tout cas, ça, c'est un problème politique, mais tu sais, il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans. Mmh. Parce que moi, j'ai fait la dénonciation pour ces principes moraux.
La machine ne suit pas.
Okay. Ben, on est mal appuyé à ce niveau-là.
T'as-tu l'impression que ma trail, à moi, les gars, les gars, les filles de 30, 40 ou même de la génération de tes enfants dans vingtaine, t'as-tu l'impression qu'il va rester quelque chose pour nous autres à 65 ans? Ou bien ils vont nous monter ça à 85 ans pour être sûr et certain qu'on ne se rende pas jusque-là? Parce que avant, c'était possible d'avoir la petite pension, puis si tu faisais attention, bien vivre. Mais avec l'augmentation du coût de la vie, Steph, ça va être impossible de vivre avec le revenu minimum, la petite pension du provincial, la petite pension du fédéral. Il y a des gens qui ont été des fonctionnaires qui vont avoir leur fonctionnaires et syndiqués ils vont avoir leur retraite de leur employeur, bien entendu, avec le fonds de pension et tout ça. Mais pour des gens comme moi qui ont été soit travailleurs autonomes ou qui ont été tout simplement employés en n'ayant pas de fonds de pension, il faut fabriquer nos trucs nous-mêmes.
Ouais.
As-tu l'impression qu'il va manquer d'argent tantôt?
Oui, ça, c'est un problème structurel. Quand si on prend l'exemple de la régie des rentes qui a été créée dans les années 60, c'était prévu que tu pouvais la prendre à 60 ans ou 65 ans, là, mais l'espérance de vie, c'était 68 ans.
Oui.
Tu sais, puis l'histoire de la retraite, c'est quelque chose qui date de la fin du 19e siècle. Là. Avant les années 1900. Là,
j'ai travaillé jusqu'à la fin.
C'est ça. Mané Jean Maurès, il ne rentrait pas à shop, là, c'est parce qu'il était mort. Fait que c'est relativement récent. Dans les années 60, on fait ça. On dit, parfait, tu vas pouvoir accumuler des fonds. Tu sais, le gouvernement va garder ça pour toi. Il va investir ça dans Lion Electric, puis ça fait le même. Puis tu vas pouvoir toucher X piastres par mois. Plus tu vas contribuer, plus tu vas toucher un montant. Sauf que quand ça a été créé, l'espérance de vie, c'était 68, 69, 70 ans. Là, aujourd'hui, l'espérance de vie à naissance, c'est 81 ans. Mais ils ont ils n'ont pas remonté les seuils là, pour prendre ça.
Harper a essayé de le faire. Ouais, Harper a essayé de le mettre à 67 ans.
C'est, j'y arrivais. Harper a dit, parfait, on va poser un geste courageux pour assurer la pérennité du système de pension de vieillesse. On va augmenter ça à 67 ans, qui était, tu sais, courageux, mais il fallait que ça se fasse, ça. Mais les libéraux, populistes au bout, ils ont dit, non, tu sais, c'est... si on veut se faire élire, il faut ramener ça à 65 ans. Alors, tu sais, on ne s'en sortira jamais avec des raisonnements de même. Mais, tu sais, il reste que pour les 20 prochaines années, statistiquement, c'est la génération qui vont vivre le plus gros transfert de richesse dans l'histoire de l'humanité.
Oui.
Mais, tu sais, si tes parents meurent bien vieux, puis toi, t'es rendu à 70 ans, puis t'es obligé de travailler parce que ton père et ta mère, malheureusement, sont pas morts. va falloir t'attendre.
OK, on parle des options pour les gens qui sont endettés au Québec. On a passé au travers plusieurs options. On est rendu maintenant à la proposition de consommateur.
Oui, proposition de consommateur, ça, c'est... En gros, la proposition de consommateur, c'est une offre qui est faite aux créanciers par l'intermédiaire du syndic. Dans ce cas-là, ça s'appelle l'administrateur de la proposition. Les créanciers sont invités à voter sur cette offre-là. Puis si c'est accepté par la majorité qu'il faut, bien, ça lie tout le monde. Puis le débiteur, la personne qui a des difficultés financières, elle paye au syndic pendant généralement 5 ans. Puis après ça, le syndic, il distribue les sommes au prorata de leurs créances. Puis de la façon que le vote se prend, c'est chaque pièce de vote, chaque pièce de dette donne un vote. Fait qu'il faut que tu aies plus de pièces pour que de pièces contre. C'est extrêmement populaire, ça marche, les créanciers aiment ça, les débiteurs aiment ça, les syndics aiment ça. L'avantage, bien, ça suspend les poursuites puis les saisies, sauf des cas exceptionnels, là, les pensions alimentaires puis les dettes de nature pénale. Ça réduit le montant à payer. Puis tu n'as aucun intérêt à payer, puis le principe de la proposition étant que tu conserves la saisine de tes biens, fait que c'est un immeuble, c'est un char, des affaires de même, tu les conserves en autant que tu respectes là, ce qui a été prévu dans la proposition. Puis, il y a certains inconvénients. Bien, comme c'est une loi où il faut que tu sois insolvable, bien, ça affecte négativement ton dossier de crédit. Fait que là, tu vas te retrouver à R7, qui en gros, ça dit règlement de dette dans le cadre d'une procédure judiciaire. Alors, ça peut être dépôt volontaire, ça peut être la proposition de consommateur. Les inconvénients, bien, c'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Là, les frais de la proposition, comme on disait tantôt, c'est inclus dans le paiement. Puis, bien, les propositions peuvent être refusées par les créanciers, mais c'est rare. T'sais, les propositions de consommateurs, ça passe dans 90 % des cas.
Là. OK. Concrètement, là, je suis avec toi, on fait une proposition de consommateur, puis là, ben, faut que tu fasses l'offre aux créanciers. Est-ce que je dois faire face à ces créanciers-là? C'est-tu 7-8 messieurs en cravate qui me regardent avec des gros yeux, puis là, ils acceptent ou pas? Comment ça se passe?
Dans les faits, il faut commencer par déterminer c'est quoi le chiffre magique, hein? Ouais. C'est quoi qu'on offre? Alors, le principe veut que... Il faut offrir plus dans le cadre de la proposition que ce que les créanciers pourraient espérer recevoir s'il arrivait une faillite. Fait qu'on dit, si Jean-Maurice, il fait faillite d'un matin, les créanciers vont récupérer à peine 10 % de ce qu'il aurait dû. Alors, dans le cadre de la proposition, on va offrir un montant qui correspond à 20 ou 25 % pour qu'il y ait un avantage là, à la proposition. On soumet la proposition. Si après 45 jours, on n'a pas de demande majeure là, pour une assemblée de créanciers puis les créanciers, là, majoritairement, ils votent en faveur de la proposition, bien, la proposition, on dit qu'elle est présumée acceptée par les créanciers. Il y a des pourcentages, mais on ne s'en marquera pas là-dedans. Puis si, à un moment donné, il y a un pourcentage de créanciers qui sont suffisants pour demander une assemblée de créanciers, on convoque une assemblée de créanciers, puis là, la personne, Jean-Maurice, est obligé d'assister à l'assemblée, mais il n'y a jamais personne qui vient. Les créanciers votent par courriel, par fax, par Internet.
Fait qu'il n'y a pas de walk of shame, là.
Non. Tu sais, la plupart des créanciers, c'est de l'Ontario, des grandes banques qui savent même pousser au Québec, là. Il n'y a pas de problème. Puis ça fait peur à bien du monde. Là. C'est une bonne chose de soulever. Mais tu sais, ça se passe, là, on brasse de la paperasse, là.
OK. Puis on termine avec le processus légal pour éliminer la majorité des dettes sous supervision d'un syndic, ce qu'on appelle la faillite.
Oui, la faillite, la bonne vieille faillite, là, qui est de moins en moins utilisée, mais qui est encore bonne. Tu as aussi le principe des avantages, la suspension immédiate des procédures et des saisies. Parce que les gens, quand ils viennent nous voir, des fois, il y en a qui attendent beaucoup. Puis, tu sais, il y a une saisie de salaire, une saisie du compte de banque. L'huissier est à la porte chez eux parce qu'il veut ramasser le char. Alors, ça élimine ça. Ça te libère de la quasi-totalité de tes dettes. De fait, il y a 4-5 catégories de dettes dont on n'est pas libéré au temps de la faillite de la proposition. C'est les dettes de nature pénale, les dettes de pension alimentaire, les dettes de pré-étudiants dans certaines circonstances, les dettes qui résultent de la fraude ou de la fausse représentation. Puis si tu as fait des blessures physiques, tu étais condamné parce que tu as fait des blessures physiques ou des agressions sexuelles à quelqu'un ou tu l'as tué, alors puis tu as été condamné à payer un montant, bien, tu ne serais pas libéré de cette dette-là. C'est plus rare qu'on voit ça. Fait que ça, c'est les avantages. Par contre, ça a l'impact aussi sur le crédit, mais là, tu n'es plus R7, tu es R9. Tu vas perdre tes biens saisissables la plupart du temps. Si tu as des placements, des CELI, des régimes enregistrés d'épargne-études, c'est surtout des biens qui sont saisissables.
Mais les REER?
Bon, les REER, ça, c'est insaisissable, sauf les contributions qui ont été faites dans les 12 derniers mois. Alors, tu as 1 million de REER, puis tu as mis 20 000 piastres le février passé.
Tu perds le 20 000.
Tu perds le 20 000, c'est ça. Mais tu vas conserver l'autre. Puis ça, à l'époque, ça avait été fait parce qu'il y avait une espèce d'iniquité. C'est qu'un médecin qui avait 1 million dans ses REER, il faisait faillite, il perdait ses REER, sauf dans certains cas. Mais le fonctionnaire fédéral qui avait 1 million dans son fonds de pension, il ne perdait pas son fonds de pension. Fait que là, on est venu régler cette iniquité-là qu'il y avait. Puis c'était une bonne chose. Puis dans le cas de la faillite, ben, tu as certaines obligations, un peu comme la proposition aussi, tu as des séances de consultation, 2 au total. Puis dans le cas de la faillite, tu dois tenir le syndic au courant de tes revenus, s'il arrive des éléments particuliers, c'est un petit peu plus... tu es suivi plus que dans le cadre d'une proposition. Ouais. Puis, si tout est beau dans une faillite, tu vas avoir droit à une libération automatique. C'est la première ou la deuxième faillite, dans la plupart des cas. Puis, si tu n'as pas respecté ce que la loi te demande de faire ou tu n'as pas payé les montants que tu devais payer, bien, le syndic, à ce moment-là, il va s'opposer à ta libération ou un créancier peut s'opposer à ta libération. Puis là, c'est le registraire des faillites qui a les pouvoirs du juge en matière de faillite là, qui va rendre une décision sur ta libération. Alors, soit qu'il va te libérer tout de suite, soit qu'il va suspendre ta libération pendant X temps. Il va dire, regarde, la libération, là, elle va prendre effet dans 6 mois plutôt que prendre effet tout de suite. Ou encore, il va dire, regarde, tu es un mauvais garçon, là. Tu vas être libéré quand tu vas avoir payé au syndic, mettons, 8 000 à temps par mois. Puis quand tu auras payé ça, tu seras libéré.
OK. Donc
ça, c'est... Puis pour ça, le syndic, il distribue les sommes qu'il a distribuées, il paye les créanciers, puis on passe à l'autre chose.
Parfait. Donc, voici les options pour une personne endettée au Québec. Le podcast sera disponible demain sur nos différents sites web. Steph, ça a été un plaisir.
Toujours.
Tu viens pas assez souvent en studio. Tu es tout le temps occupé là, pour un gars de 65 ans.
63.
Écoute, je pensais te voir plus souvent. Là. Je me suis dit, il va se sauver de la job un peu. Il va avoir l'impression d'aller au golf avec son marceau. Là.
On va revenir.
En l'espérant. D'ici là, ben, enlevez l'éléphant de sur vos épaules parce qu'être endetté puis avoir des appels des différentes personnes à qui on doit de l'argent, ça ne doit pas toujours être facile. Consultez un syndic autorisé en insolvabilité. Puis, si ça vous tente de jaser avec Stéphane Leblond, de chez Leblond et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, ben vous pouvez aller sur le site internet gosyndicleblond.com. Merci, Steph.
Bienvenue.
Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur nos ondes et on se reparle demain, tout le monde. Salut. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Chez Sport Expert et Atmosphère, c'est la liquidation de fin de saison. Profitez de 30 à 50 de rabais sur une vaste sélection de vêtements et de chaussures. Détails en magasin, Sport Expert d'ici.
Oh, shérif, c'est une sacrée monture que t'as là.
Merci, Billy.
Où est-ce que t'as dégoté une monture pareille?
Bah, chez New Look, ils sont tout plein de montures.
À monture!
La deuxième paire de lunettes est gratuite à l'achat de n'importe quelle marque chez New Look. Jusqu'au 5 octobre, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne.
C'est la liquidation totale chez Nissan. Et c'est le moment de profiter de nos meilleures offres de l'année. Puis, on veut pas se vanter, là, mais cette année, on a été maintes fois récompensés pour nos véhicules. Donc, profitez du meilleur des deux mondes. Un financement à 0 % en plus d'un boni liquidation de 500 $ sur modèles sélectionnés et primés. Tous les modèles 2025 doivent partir. Rendez-vous chez Nissan dès maintenant.
Sur approbation de crédit, les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan.
Chez IGA, nos experts fruits et légumes mettent les bouchées doubles pour vous servir. Avec des arrivages d'ici, comme les paniers de 3 litres de pommes compliments au prix vérifié de $3,99 chacun. IGA, vive la bouffe et le bon service. Valable jusqu'au 27 août dans les magasins participants. Détails en circulaire.
Deftones. La tournée nord-américaine 2025 s'arrêtera au Centre Vidéotron le 7 septembre prochain. Avec invités spéciaux, Fantagram et The Barbarians of California. Billets en vente maintenant sur gestev.com et ticketmaster.ca. Deftones au Centre Vidéotron. Une présentation Live Nation et Gestev.
Vous cherchez quoi faire cette semaine? Consultez Québec Animé. Spectacles gratuits, cinéma en plein air, expositions, activités extérieures, festivals, il y en a tellement, c'est presque étourdissant. Rendez-vous sur animé.ville.québec.qc.ca. Un message de la Ville de Québec.
Chez Mastavocat, on vous accompagne à chaque étape. Droit familial, criminel, pénal, DPJ, logement, immigration.